Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité sera Jean-François Kahn de l'hebdomadaire Marianne. Eh bien, j'avais reçu Jacques Cotta il y a quelques émissions sur l'évolution des médias, sur le rapport entre les médias, la démocratie, le pluralisme. Mais enfin, j'avais toujours des petites questions. Eh bien, imaginez-vous que je me suis dit, tiens, si j'allais demander à Jean-François Kahn, là, pourquoi lui ? Bonne question. Ben justement parce qu'il il a été à l'initiative de la création de Marianne et que c'était un journal engagé et que ça m'intéressait de prendre cette perspective. Alors je me suis rendue dans l'antre, je suis allée à Marianne. Jean-François Kahn était là dans son bureau, il avait le dos tourné quand je suis arrivée, il était en train de regarder les dépêches de l'AFP. Il était visiblement très occupé, il avait un repas le soir même, enfin franchement il n'avait pas énormément de temps. Subitement, paf, il s'est retourné et là j'avais eu droit à 20 minutes d'interview. Eh bien justement, allons-y. J'ai entendu dans d'autres médias des rédacteurs en chef expliquer la chute actuelle des ventes dans la presse par le fait que les gens maintenant s'intéresseraient plus à Internet, liraient éventuellement même le journal par Internet. Est-ce que vous pensez que c'est une explication qui est valide sur la chute de la presse actuelle ?
Comme souvent, il y a beaucoup d'éléments convergents qui expliquent la chute et naturellement les gens retiennent la cause qui les arrange ou plus exactement la cause qui leur évite de regarder en face les causes qui les dérangent. Alors il y a des raisons matérielles. En ce qui concerne ce que vous évoquez qui est les sites internet, il faut dire qu'il faut être complètement idiot pour mettre son propre journal sur internet. Moi, nous, par exemple, on le fait pas. On a un site internet, on met plein de choses, mais on met pas le journal de la semaine. Et quand Libération, Le Monde mettent leur propre journal sur internet, en effet, dans la mesure où ils offrent gratuitement ce qui est payant, il faut pas qu'ils s'étonnent qu'un certain nombre de gens disent oh, « bah, c'est une bonne affaire, j'ai l'article qui m'intéresse, je paye pas ». Ça, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Si j'ajoute à ça que de toute façon, il y a des journaux gratuits en plus, donc vous avez la double gratuité, si vous voulez. Ils sont pris en tenaille par la double gratuité. Donc ça, c'est une cause. La deuxième, c'est la fermeture des points de vente. C'est le fait qu'il y a de moins en moins de points de vente et que c'est de plus en plus difficile d'acheter un journal et que pour certains, il faut faire 500 mètres, 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Ils disent, bon, on ne l'achète pas. C'est d'autres raisons. Maintenant, il y a aussi des raisons qui sont liées à leur contenu. Il est clair que la relative homogénéité politique ou idéologique de journaux, le fait que vous avez par exemple un journal de droite, or la droite c'est quand même des sensibilités différentes, donc disons c'est le Figaro, c'est une droite néolibérale, moderniste néolibérale, il existe aussi une droite réformiste, centriste, nationaliste, souverainiste, gaulliste, etc., qui lit peut-être le Figaro de temps en temps, mais qui ne se reconnaît pas dans un journal qui est de tonalité modérée néolibérale. Vous avez deux journaux de gauche, Le Monde et Libération, pour simplifier, qui sont des gauches, une gauche libérale libertaire. Donc vous avez une gauche républicaine qui ne se reconnaît pas dans ces journaux, une gauche sociale qui ne se reconnaît pas dans ces journaux, plus une gauche basique qui ne se reconnaît pas dans ces journaux élitistes, et qui en plus font aucun effort pour être compris par leurs lecteurs. Il faut avoir Black plus 4, Bac plus pas 4 pour les comprendre. Et donc ça explique un peu naturellement non seulement la déperdition mais même quelquefois le rejet par les lecteurs. Le plus bel exemple et c'est peut-être cela qui aurait dû être à mon avis un élément de réflexion qui aurait dû conduire la presse à organiser des états généraux pour regarder cette réalité en face, c'est ce qui s'est passé avec le référendum européen. 98% des journaux pour le oui, des éditorialistes pour le oui, des chroniqueurs pour le oui, radio, télévision, hebdomadaire, quotidien, 55% des Français pour le non. Or non seulement les journaux ne s'interrogent pas, en disant il y a un décalage, c'est clair, il y a un fossé. Moi j'étais pour le oui, alors je ne dis pas ça par rancœur, j'étais pour le oui, mais n'empêche que je dois regarder cette réalité en face. Eh bien ce fossé qui fait qu'une majorité de Français vote dans un sens alors que la quasi-unanimité deux médias tirent dans l'autre, non seulement ils ne se sont pas interrogés, ils ne se sont pas coltinés cette réalité, mais ils ont injurié leurs propres lecteurs. Et on a vu Serge Julie dans Libération traiter la majorité de ceux qui avaient voté non, en l'occurrence la majorité de ses lecteurs, de fascistes, de xénophobes, de racistes, etc. Bon, ça n'a fait qu'accentuer la perte des lecteurs de Libération, mais pourquoi s'en étonner, etc., etc. Le Monde aujourd'hui, par exemple, qui est un journal, certes, plutôt de gauche, mais qui se vend d'être un journal de référence, objectif, honnête, etc., fait une campagne absolument, quasiment hystérique contre Villepin. C'est son droit, et je pense qu'ils sont sincères, qu'ils pensent que ce type est une calamité pour la nation, sans doute, s'ils le font. Mais ils peuvent pas se plaindre s'ils perdent un certain nombre de lecteurs qui disent trop c'est trop, et qui les soupçonnent d'être sarkozystes, ouais, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître aussi que les journaux ont eux-mêmes produit les raisons qui ont accéléré leur chute.
Et pourquoi justement cette perte de pluralisme dans la presse ?
Alors, le perte de pluralisme dans la presse est lié d'abord à l'évolution du système économique qui tend à la concentration. De la même façon qu'il y a une concentration dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, dans les centrales d'achat, dans les avions long courrier, dans tous les domaines, ou dans les apéritifs, où il n'y a plus qu'une société qui produit quasiment tous les grands apéritifs et les grands whisky que vous connaissez. Depuis la fusion entre Grande Métropolitaine et Guinness, il y a plus qu'une société. Ben, c'est vrai aussi de la presse. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Midi, on a vu un phénomène de fusion qui fait que là où il y avait 2, 3, 4, 5 journaux de sensibilité différente, aujourd'hui, il n'y aura plus que Hachette qui contrôle tous les journaux sur toute la région du Midi après sa fusion avec les journaux contrôlés par Le Monde. Et même chose pour l'Est, même chose pour l'Ouest, même chose partout. Et pour Paris, il n'y a plus que 3 ou 4 journaux par la concentration. L'autre, et cela est aggravé par le fait que les journalistes ont rarement, alors ça c'est côté positif, sans doute jamais les journalistes n'ont été aussi indépendants et libres qu'aujourd'hui. La déontologie quand même a une importance aussi considérable. Bon. Le problème, et y compris à la télé et à la radio, il y a des choses que j'ai vécues moi à la radio, à la télé ou dans la presse écrite, scandaleuses, qui ne serait plus possible aujourd'hui, de censure, de refus de réalité, de trucage, etc. Aujourd'hui, non. Objectivement, jamais la presse n'a été aussi indépendante et aussi libre. Ça durera ce que ça durera. Mais le problème, c'est qu'en toute liberté et en toute indépendance, les journalistes pensent tous pareil. C'est-à-dire les journalistes qui comptent, c'est-à-dire qui sont directeurs de la rédaction, rédacteurs en chef, éditorialistes, qui ont entre 48, 50, 60 ans, sont tous pareils. C'est-à-dire ils sont du même milieu, ils sont issus du même milieu, ils vivent dans la même ville, comme ils sont très peu et fréquentent les mêmes endroits, ils vivent entre eux, ils lisent les mêmes livres, ils ont les mêmes références, et quasiment à 80%, c'est tous d'anciens 68ards gauchistes qui ont évolué vers l'acceptation du néolibéralisme. Donc ils se sont constitués une idéologie faite de ralliement au néolibéralisme en matière économique et sociale au nom de la modernité, et de néo-68ards. Tweetardisme ou de néo-gauchisme en matière sociétale, en matière de mœurs. Et cette idéologie syncrétique, quasiment, ils y adhèrent quasiment tous. Donc forcément, ils disent tous la même chose. Comme ils disent tous la même chose, ça les conforte dans l'idée qu'ils ont raison. Ils disent, puisque nous qui sommes des gens bien, intelligents, remarquables, etc., on pense tous pareil, c'est évidemment qu'on a raison. Puisqu'ils pensent tous la même chose et qu'ils ont raison, du coup, ils ont tendance à diaboliser tous ceux qui pensent pas comme eux, etc., etc. La preuve, leur utilisation, mais quasiment paranoïaque, du terme de populisme. C'est-à-dire, aussitôt qu'il y a une pensée qui n'est pas totalement la leur, poujadisme, populisme, machin, etc., voilà. Et naturellement, ça renforce en même temps le fossé dont je vous parlais. Parce que, en l'occurrence, ce qu'ils pensent est totalement antagoniste à ce que pensent les gens. C'est-à-dire, les gens, ils ont évolué en sens inverse. Le public, lui, est de plus en plus contre le néolibéralisme et ses effets en matière économique et sociale, et de plus en plus hostile au discours néo-68ard en matière de mœurs et sociétale. Donc c'est exactement l'inverse. Donc à partir du moment où vous avez un pouvoir médiatique quasi homogène, et dont la pensée dominante est totalement antagonique de ce que pense l'opinion, bah, vous avez la crise actuelle.
Mais je présume que vous déjeunez, par exemple, avec des grands patrons de presse, des grands éditorialistes, etc.
Quasiment jamais. Il se trouve que j'ai maintenant un âge et une expérience qui fait que certains ont travaillé avec moi, j'ai été leur patron. Mmh. Ou certains, comme un type comme Gisbert, François-Olivier Gisbert, il était un jeune journaliste et je lui ai mis les pieds à l'étrier quand je me suis occupé des services politiques du Nouvel Obs. Donc ça a créé des liens d'amitié. Donc il y en a avec qui on a des liens d'amitié et je les connais. Mais à part ceux avec qui j'ai des liens d'amitié, je ne les rencontre jamais, non, pas du tout.
Donc vous pouvez d'abord pas parce qu'ils me Hein? Vous ne pouvez pas leur tenir.
Non, mais ils savent, je l'écris, donc ils savent que je le pense. Je l'écris, je le dis, donc en gros, ils savent que je pense. Mais de toute façon, ils trouvent ça insupportable, ça les énerve, ils me considèrent comme un provocateur, un scandaleux, également un populiste d'ailleurs, parce que le seul fait que je dis ça fait qu'ils me considèrent comme un poujadiste, un populiste, un je sais pas quoi. Sauf ceux qui sont que je connais bien comme amis. Mais bon, il y en a beaucoup maintenant. Les grands patrons de presse, je les rencontre pas. Ils se posent aucune question d'ailleurs. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt parce que de toute façon, ils se posent aucune question. Pour eux, le seul problème de la crise de la presse, c'est des questions matérielles. Voilà.
Des sous et des hommes sur Aligre FM et on est toujours en compagnie de Jean-François Kahn de Marianne. Ben, il était là, face à moi. Et moi, je tenais une de ces crèves tenaces depuis plus d'une semaine et j'avais bien du mal à mettre deux idées l'une en face de l'autre. Enfin, fallait bien continuer et même avoir l'air pas trop sotte. Alors j'ai essayé, suite de l'entretien.
Ce que vous dites est un peu désespérant parce que les gens qui pensent comme moi aimeraient bien que le Parti Socialiste entende la voix du peuple, on pourrait dire. Puis d'un autre côté, on a les médias, de la même façon, on aimerait bien qu'ils nous entendent. Plutôt dans un discours comme le vôtre. Donc on est face à deux autismes. Est-ce qu'il y a une possibilité d'en s'en sortir ?
Ils n'entendront pas. En ce qui concerne le Parti Socialiste, je fais une parenthèse, mais regardez ce qu'a déclaré Ségolène Royal sur la sécurité. On est d'accord ou pas, mais en gros, c'est la première fois que quelqu'un du Parti Socialiste, et à la tête des sondages, ose dire des choses tangible, concrète, forte sur le problème de la sécurité qui correspond à l'aspiration de la population, y compris de gauche, y compris socialiste. Attendez, vous entendez les réactions ? C'est absolument horrible, c'est le lâchage, etc. Donc ils ne veulent pas entendre. En plus, c'est extraordinaire parce que s'il y a un domaine où la gauche a fait faillite, c'est quand même ce problème. Donc ils devraient au moins être discrets. Je veux dire, quand on a fait à ce point faillite jusqu'à mettre Le Pen au deuxième tour par incapacité d'aborder le problème de l'insécurité ou de l'immigration, on devrait être modeste. Ben, pas du tout. Ils donnent des leçons, ils condamnent, ils stigmatisent, etc. Donc c'est vraiment à pleurer, quoi. C'est bon. Et dans la presse, disons que c'est à peu près la même chose, quoi. D'ailleurs, y compris sur le même domaine. C'est la même chose. Quoi qu'il se passe, le discours se répète en boucle et ne tient absolument pas compte de la réalité. Que ça soit si vous avez les types du Figaro, alors à droite, qui vous disent par exemple que plus il y a de concurrence et de privatisation, plus ça fait baisser les prix. Bon, là-dessus, on a privatisé l'électricité, les prix ont augmenté de 48%. Vous avez vu un éditorial qui reconnaît qui fait un mea culpa, qui se pose une question, qui fait une autocritique ? Rien ! Il vous explique que seule une politique de droite néolibérale permet de réduire les déficits. En fonction de quoi ? Berlusconi fait une politique de droite, il augmente les déficits. Bush fait une politique de droite, il augmente les déficits. Et tous les pays qui ont fait une politique néolibérale augmentent les déficits. Vous croyez qu'ils se posent des questions, qu'ils analysent ? Rien ! Ils ne changent pas de discours. Quoi qu'il se passe, ils ne changent pas de discours. Et la gauche, c'est pareil. D'après Le Monde, Libé, etc., sur le problème de l'insécurité et de l'immigration, il y a la preuve aujourd'hui que quand vous faites une régularisation automatique des sans-papiers, hein, ça crée un courant d'air qui fait que vous avez des centaines de milliers d'émigrés qui viennent. C'est un fait, on est en train de le voir en Espagne, on est en train de le voir en Italie. Ils ne le reconnaissent pas, ça les arrange pas, donc ils dénient de réalité, voilà, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de cette crise ?
Vous savez, moi, j'en suis sorti en faisant un journal. Je ne peux pas faire mieux que de faire un journal et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui le lisent. Et comme c'est le journal qui est le numéro un en vente des hebdos, quelque part, on a quand même réussi à accepter une différence et à faire écouter une différence et à imposer cette différence. Et pour le reste, ce que je dis moi quelquefois quand je parle de cela en public, je dis aux gens, vous êtes... Reprenez-vous en main, redevenez les acteurs de votre destin, redevenez des citoyens actifs et écrivez à vos journaux, téléphonez à vos journaux, expliquez-leur ce que vous pensez, c'est-à-dire n'acceptez pas passivement. Aidez-les à évoluer, à se transformer, à écouter.
Est-ce que le fait que Marianne soit un journal engagé. Actuellement, si vous voulez, il y a une espèce d'idéologie du journalisme justement pas engagé, objectif, neutre, impartial. Et est-ce que vous pensez que c'est faire œuvre de journaliste que de justement d'être engagé?
Oui, je crois que ça se pose pas comme ça parce que personne ne croit que les journaux ne sont pas engagés. Alors, Libé pas engagé, il y a Libé, Le Monde. Le Figaro, à la limite, bizarrement, qui lui se reconnaît engagé, peut-être plus objectif. Mais Le Monde et Libé, ils sont engagés toutes les lignes. Il n'y a pas une enquête, il n'y a pas un reportage où il n'y a pas d'idéologie tout le temps, et des a priori tout le temps. Des fois, d'ailleurs, des a priori avec lesquels je suis d'accord, hein, que j'approuve, mais des a priori sans arrêt. Bon. Et Le Figaro, moins, mais au moins, eux, ils se disent engagés. Donc les gens ne se fait et l'Observateur s'est engagé, l'Express s'est engagé, Le Point c'est un journal de droite dure, par exemple l'Observateur c'est la gauche un peu bobo, donc ils sont engagés. Donc déjà les gens ne croient pas qu'ils sont engagés, et le paradoxe c'est que nous qui nous disons engagés, qui sommes engagés, qui revendiquons notre engagement, dans la mesure où c'est pas partisan, c'est-à-dire qu'on peut soutenir la droite ou la gauche sur tel ou tel sujet, ou les condamner sur tel ou tel sujet, nos lecteurs nous vivent comme objectifs. Ou au moins honnête, alors qu'on dit qu'on est engagé, on ne le cache pas.
Quels seraient, d'après vous, les angles, moi ce que j'ai tendance à appeler les angles morts du débat, qu'il faudrait remettre sur le devant de la scène et qui, justement, qu'occulte actuellement les...
Bah, le problème des débats, c'est pas un angle mort, c'est le fait que, c'est que les médias... porte ces médias, soit les socles de ces débats. Or, soit comme TF1, qui est quand même la première chaîne de France, il n'y a pas de débat du tout, ou sur Europe 1 très peu, ou RTL peu, soit c'est des débats où il y a 18 personnes sur un plateau et chacun peut prononcer 1 minute 10 au maximum et on l'arrête, etc., on comprend rien, soit c'est des hommes politiques qu'on peut même pas interrompre, qui ont... tout l'espace pour eux. Donc déjà, alors il y a quelques vraies émissions de débat, comme Riposte, comme C'est dans l'air, etc., mais il y en a très peu. Donc déjà, il faudrait que le débat, le vrai débat, soit réhabilité. Est-ce que vous avez entendu dans les 5 dernières années ou 4 dernières années un débat où 2 personnes ont 1 heure pour s'expliquer? Pratiquement, ça n'existe pas, ça n'arrive jamais. Avant, c'était très très fréquent. Bon, donc déjà, il faudrait réhabiliter le débat dans les médias. D'autre part, il faut s'entendre aussi. À partir du moment où un, on excommunie sans arrêt, on lynche sans arrêt, on exorcise sans arrêt, et on ostracise sans arrêt, et on n'écoute pas l'autre, ça ne facilite pas le débat. Et d'ailleurs, les gens s'expriment. Il y a par exemple un débat à France Culture qui est pas inintéressant, où il y a Max Gallo, où il y a Bourlange, où il y a... Enfin bon, c'est typique. C'est un des rares débats intéressants. La gauche n'y est pas. Ça choque qui personne. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à des choses étranges que le fait qu'il puisse y avoir un débat où la gauche n'est pas présente ne choque même plus. Et il pourrait aussi bien y avoir un débat où la droite serait absente. Hein. Je veux dire, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a perdu... Du coup, la culture du débat.
J'ai une interrogation sur le rôle des éditorialistes. Quel est leur rôle vraiment spécifique dans un journal parce que j'étais en train de penser à eux, parce qu'on les entend aussi sur France Inter, que j'écoute souvent. Et à un moment, au moment du référendum en particulier, on nous a dit « Mais vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes pas content, parce que ce sont des éditorialistes qui s'expriment. » Et justement, on les choisit parce que ils ont une pensée particulière et on ne peut pas les mettre en cause.
Mais ils étaient tous pour les oui. Moi, je les ai pas mis en cause parce que ils étaient tous pour les oui, les éditorialistes. Tous. Moi, je les ai pas mis en cause, contrairement à une campagne qui s'est déroulée, qui a mis en cause Alain Duhamel, par exemple, ou Bernard Guetta sur France Inter. Moi, je les ai pas mis en cause parce que je sais que, pour le coup, ils disaient ce qu'ils pensaient. Vraiment, c'était une conviction. On peut pas reprocher à un éditorialiste d'exprimer sa conviction, et on peut pas l'obliger de dire autre chose que ce qui correspond profondément, fortement à sa conviction. Le problème, c'est par quel hasard aucune personne ayant une conviction contraire n'a-t-il un éditorial et une chronique? C'était ça qu'il fallait mettre en cause. C'est pourquoi, par quel hasard, à aucune radio un éditorialiste n'était-il favorable ou non, alors que la majorité de la population l'est? Pourquoi? C'est là où ça pose un problème. D'ailleurs, ça veut dire qu'on est éditorialiste si on pense, si on adhère à l'idéologie dominante. Point final. Regardez Alain Duhamel. Alain Duhamel, il adhère à l'idéologie dominante avec talent. Résultat, il est éditorialiste à RTL, à la télé, au Point, à Libération, à Nice Matin, à l'Est Républicain, au Petit Bleu des Côtes du Nord, etc. Partout. C'est quand même un signe.
Dernière question. Est-ce que il faut qu'on soit tous à attendre avec... avec beaucoup d'impatience que la génération des 68 arts meurt.
Oui, parce que elle est en train, d'ailleurs, la nouvelle génération est en train de secouer ça. La génération des 68 arts, ce qui est assez normal, comme c'était les plus dynamiques. Quand vous avez 20 ans, il est plus logique des 68 arts que jeunes giscardiens, quand même. Bon, c'était les plus dynamiques, c'était ceux qui avaient des idées, c'était les plus imaginatifs, c'est souvent les plus talentueux. Bon, et ils ont pris le pouvoir. C'est très bien. Ils ont pris le pouvoir dans la presse, dans la publicité, dans la finance, dans l'économie, dans la politique. Très bien. Et puis, beaucoup d'entre eux, à partir du moment où ils ont découvert le pouvoir, la puissance, un peu l'argent, un peu etc., ont évolué et sont devenus les nouveaux maîtres, exactement comme les révolutionnaires de 1830 étaient devenus les nouveaux maîtres en 1848. Hein, c'est classique. Et ben donc, maintenant, je pense qu'en effet, il faut que ces gens soient remplacés. Quoi. Ça, c'est clair. C'est le cycle normal.
On attend alors.
Absolument.
Bien donc, c'était des sous et des hommes en compagnie de Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, qui à peine l'interview finit, s'est retourné pour regarder à nouveau le fil de l'AFP. Bon, en tous les cas, eh ben, il avait pris le temps de me répondre. J'espérais que ça serait plus optimiste. Bah, c'était raté, mais il y a un moment, si vous l'avez remarqué, il dit que ce qu'il faut faire, c'est écrire aux médias, écrire pour leur dire que ben non, c'est pas comme ça qu'on veut que les choses soient dites, que cela tourne comme cela. Moi, je m'en prive pas personnellement. Ça peut être aussi parfois pour dire que les choses sont bien. Par exemple, moi j'ai écrit à Kathleen Evin, qui fait une émission sur France Inter de 20h à 21h, qui est une émission remarquable que je vous recommande vivement. Ben voilà, l'année va bientôt s'achever. Alors, la semaine prochaine et la semaine suivante, vaste mystère, parce que imaginez-vous que je suis en cheville avec Denis Robert, celui qui a écrit sur l'affaire Clearstream. L'embêtant, c'est que j'ai un petit problème avec son attaché de presse qui veut pas me donner un rendez-vous pour l'instant. Je sais pas, Aligre est peut-être trop petit, je sais pas. Donc j'attends, je vais voir. Bah, ce soir, je vais même aller essayer de coincer Denis Robert himself en passant par-dessus l'attaché de presse. Non, on verra bien. Résultat, la semaine prochaine et j'espère aussi la semaine suivante. Voilà, à bientôt !